La culture peut-elle vaincre la barbarie représentée aujourd'hui dans l'imaginaire collectif par les exactions du groupe État islamique? Cette année 2015 aura en effet été marquée par les attentats commis en France, dont ont été victimes aussi bien de simples citoyens pris au hasard que des dessinateurs, des artistes. L'occasion de questionner le rôle ou le pouvoir de l'artiste, de l'intellectuel en ces temps troublés. Quentin Mouron, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 26 ans, vous êtes écrivain né à Lausanne. Votre dernier livre, le quatrième, « Trois gouttes de sang et un nuage de coke » est paru l'été dernier. Alors vous faites partie de la jeune garde suisse, des écrivains suisses. C'est illusoire d'imaginer, comme le font de nombreux intellectuels, que la culture, l'éducation aussi sont là pour vaincre les extrémismes et l'obscurantisme.
Écoutez, je pense qu'en tant qu'écrivain, ou en tant qu'intellectuel, ou en tant que dramaturge, que sais-je, on est toujours heureux quand on nous dit « mais voilà, vous avez enfin un rôle à jouer, vous avez enfin, vous pouvez justifier votre présence, vous êtes utile ». Vous avez un rôle à jouer contre le terrorisme. Alors on se sent tout d'un coup investi d'un pouvoir incroyable. Je me dis, moi, avec mes 4 livres, je suis très content, j'ai peut-être déjoué quelques attentats. Or, je pense que ça se passe pas comme ça. Il faut quand même se pencher sur les profils de ces terroristes. Ce sont pas des barbares, mais ça, c'est le secrétaire de la défense américaine qui dit ça. C'est des barbares qui ont quand même fréquenté, qui étaient français, qui ont fréquenté l'école nationale française, qu'on peut critiquer, mais qui est quand même bien placé au niveau international en comparaison. Il y a des gens beaucoup moins éduqués, beaucoup moins formés, qui se massacrent pas pour autant, qui vont pas pour autant massacrer des civils. Donc je pense que c'est un peu illusoire, ça veut pas dire que l'éducation joue aucun rôle, surtout que l'éducation peut être prise au sens très large, ça veut pas dire que la culture n'en joue aucun, mais je crois qu'il faut pas s'illusionner non plus, les gens à qui on a eu affaire, prenons par exemple l'exemple assez cocasse de ce logeur de terroriste qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux et qui a pu s'exprimer devant les caméras pendant plusieurs secondes. Il parle bien, il parle un français presque soutenu, enfin qui est correct, un niveau d'élocution normal, il n'a pas l'air d'avoir de carence particulière, on peut s'imaginer qu'il a quand même une culture minimale, donc on n'est pas du tout face à des barbares, aux barbares qu'on nous vend. C'est pas parce qu'on a une longue barbe qu'on est forcément, qu'on est un barbare.
Hein. Vous refusez ce rôle de guide, d'écrivain, d'intellectuel dans la cité?
Non, je le refuse pas, mais je pense que c'est illusoire de penser qu'il y a vraiment un rôle. Moi, j'aime pas tellement ce côté, il y a un rôle, ça doit être utile. Je crois pas vraiment que ce soit utile, la littérature. C'est pas... Théophile Gautier avait écrit un magnifique libelle dans la préface à Mademoiselle de Maupin, où il vomit comme ça sur la notion de l'utilitarisme. Et c'est vrai que je crois que l'art a pas vraiment à voir avec l'utile, ou pas directement. Après, il peut y avoir des applications détournées. On peut faire, je sais pas, moi, pour dans les prisons, faire de la peinture, faire des trucs comme ça, c'est très bien. C'est ça, mais c'est plus vraiment de l'art, c'est plutôt du divertissement culturel.
Alors vos collègues artistes, est-ce qu'ils surévaluent leur rôle justement dans la société parce que eux tiennent ce discours, il faut plus de culture. On a vu aussi Matteo Renzi dire cela, investir dans la culture, un euro investi contre le terrorisme doit être aussi investi dans la culture. Ça marche pas comme ça selon vous?
Non, je crois que ce principe d'équivalence a déjà été mis à mal depuis longtemps. Je pense à un livre qui est très beau, qui s'appelle Le Château de Barbe Bleue de Georges Steiner, qui analyse ces rapports entre culture et barbarie en prenant l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Lui-même a dû fuir l'Allemagne pour aller en France, puis fuir la France pour aller à New York. Sa famille étant pourchassée par les nazis. Et qui se questionne en effet autour de tous ces gardiens de camp qu'on a vu jouer merveilleusement exécuter leur Schubert le soir venu après avoir massacré toute la journée. Donc, qui allaient à Beyrouth, qui allaient en pèlerinage, qui étaient des gens finement lettrés, pas du tout des... Il reconnaît d'ailleurs que Robert Brasillach, intellectuel fusillé à la Libération, était l'un des meilleurs spécialistes de Corneille, je crois, ou de Shakespeare, enfin de Corneille, je crois. Enfin, ce sont pas des gens qui ont... on peut pas vraiment dire que ce sont des barbares, ce sont au contraire des gens très cultivés, donc je pense qu'il n'y a pas le lien 1 euro. Alors tant mieux pour la culture, j'ai envie de dire, si ça tenait à cœur à Matteo Renzi depuis longtemps, c'est bien qu'il l'ait fait, évidemment, il a certainement d'excellentes raisons, mais je pense que celles qui sont invoquées ne sont pas les bonnes.
Alors vous refusez le rôle de guide culturel en quelque sorte. Par contre, est-ce que l'artiste ne doit pas être engagé politiquement?
Ah mais il peut le faire, mais je crois que le citoyen peut s'engager politiquement.
Mais est-ce qu'il le doit?
Non, je pense qu'ils le doivent pas du tout. Et c'est pareil pour les citoyens. Disons, ils le doivent, ils le peuvent. Mais moi, quand je m'engage, je prends la parole parfois de manière politique, sur des sujets politiques, mais je le fais plutôt à titre de citoyen qu'à titre d'écrivain. Alors c'est vrai que ça aide un peu pour écrire une chronique, parce que j'écris peut-être mieux que quelqu'un qui s'exprime pour la première fois par écrit, mais c'est vraiment pas... Je crois pas que c'est un rôle d'écrivain, je crois que c'est vraiment... C'est un peu surévalué. En plus, vous voyez, quand vous faites une production intellectuelle engagée, en général, vous vous adressez à d'autres intellectuels. Donc c'est un espèce de circuit fermé où on se congratule entre nous. Ta révolte est magnifique, c'est génial, j'ai adoré comme t'as fait. Je crois pas que ça touche vraiment, que ça porte. Ce qui porte, c'est plutôt, on l'a vu, les slogans, c'est plutôt les mots d'ordre, et puis ça, c'est vrai que c'est plutôt laissé à la section communication des grands partis.
Bon, on a quand même un contre-exemple avec Stéphane Hessel, indignez-vous, ça a quand même eu un impact sur la société, il y a eu des mouvements qui sont nés de cela.
Oui, mais là, c'est pas vraiment, Stéphane Hessel est avant tout un homme politique, c'était un ambassadeur, c'était pas un...
Un intellectuel aussi.
Oui, un intellectuel. Enfin, le papier Indignez-vous était, c'était quoi? C'était 25 pages de manière très, que j'ai lu et qui était en effet, qui remettait beaucoup de choses à sa place, qui était bien fait, mais enfin, c'était pas un essai, c'était pas 500 pages d'Anna Arendt.
Effectivement. Si on parle de l'écrivain et du combat culturel, on voit du côté de Genève, que vous connaissez bien, une nouvelle loi sur le divertissement va entrer en vigueur le 1er janvier prochain, avec des lieux nocturnes culturels inquiets pour leur avenir, car ils craignent que les nouvelles restrictions en matière d'horaire, de bruit ne nuisent à leur existence. Est-ce que la culture est en danger, là, par exemple ?
Je crois pas que la culture soit vraiment en danger. Je crois que de toute façon, il faut bien distinguer l'art et la culture. La culture, c'est déjà une sorte d'art putréfié, si on veut, et institutionnalisé. Donc c'est... Mais par contre, oui, j'ai une certaine sympathie pour ces gens qui se battent, surtout parce que j'ai une certaine antipathie pour ce conseil municipal de Genève, qui est plutôt une sorte de vaste cirque de clowns un peu obscènes, comme ça, qui passent leur temps à tweeter. Enfin, on voit ça sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment peur. Donc c'est vrai que je préfère à tout prendre un théâtre qu'un conseil municipal genevois.
Et l'usine, par exemple, vous avez dit, en parlant de Genève, être incapable de mettre les pieds dans ces établissements poisseux, aussi autogérés ou alternatifs soient-ils, je cite.
Oui, mais j'ai ajouté qu'en face, ceux qui voulaient couper les subventions étaient encore plus dégueulasses. Alors du coup, c'est vrai que je suis quand même, je soutiens l'usine, je l'ai soutenue à ma manière. Encore une fois, en tant que citoyen plus qu'en tant qu'écrivain, c'est vrai que c'est pas un endroit comme beaucoup. D'ailleurs, moi, dès qu'il y a un peu trop de monde, je commence à paniquer. Donc, dès que j'entends plus ma voix, ça m'emmerde. Donc, c'est vrai que j'y vais pas forcément, mais je préfère encore un type de l'usine qu'un Pierre Maudet ou qu'un je sais pas qui, soit du Conseil d'État, soit du Conseil municipal.
Ah, vous êtes également assez critique envers la politique culturelle. Je vous cite encore une fois, Genève finance allègrement une panoplie de lieux, d'événements et de festivals autrement consternants. Personne ne semble trouver grâce à vos yeux, en quelque sorte.
Bah, c'est-à-dire qu'à côté, l'usine, c'est vraiment, c'est incroyable. À côté de, c'est même un lieu magnifique. À côté de certains, ces espèces de foires à la saucisse qu'on subventionne à tort larigot. À Lausanne, c'est presque encore pire parce que finalement, il y a une espèce de... Tout se fait par les festivals. On commence à couper dans les parcs publics. On fait des lois pour limiter l'accès aux jeunes dans les parcs publics. On à la cité, on enlève les tables. Enfin, on les remplace par des bancs. On plante des arbres pour que les gens puissent plus s'asseoir. Donc, on essaye de diriger l'entier de la fête, l'entier de l'entrain populaire et toute forme de spontanéité dans des espèces de festivals à bestiaux, dans des food trucks machin, dans des trucs qui me semblent assez détestables. Mais enfin, c'est moi qui suis aussi de mauvaise humeur. Après tout, c'est très tôt.
Donc, la spontanéité, ça veut dire pas de subventionnement, parce que ça oriente, si je suis votre raisonnement. On a eu hier cette nouvelle, les lauréats des prix suisses de littérature sont connus, parmi eux deux romans, Yves Laplace, Antoinette Richner, des prix sous le patronage de l'Office fédéral de la culture. J'imagine que ça ne vous fait pas vraiment rêver.
Oui, moi ça me fait rêver parce que j'ai toujours besoin d'argent, je m'en sors pas très bien,
alors forcément.
Oui, c'est quand même, c'est évidemment l'intérêt. Je crois d'ailleurs que l'organisateur le reconnaissait. Enfin, je sais pas, on dit pas organisateur, je crois on dit quoi, haut commissaire. Enfin, j'en sais rien. Mais j'imagine que oui, moi c'est vrai que moi j'aimerais bien toucher un prix quelconque, évidemment, mais vraiment pour des questions financières. Je crois que personne ne s'illusionne là-dessus.
En même temps, vous critiquez les politiques culturelles qui orientent avec leur argent.
Ah non, mais je critique pas forcément les subventions, je critique le contenu. Je trouve qu'un festival peut être minable, j'ai pas forcément envie qu'on leur coupe les vivres, attention. Moi j'ai vu l'autre jour un employé des CFF que je trouvais absolument con. Enfin, il était vraiment, comme j'avais à la radio, il avait l'air même méchant, mais enfin j'avais pas du tout envie qu'il soit viré. C'est pas forcément parce qu'on a un désagrément qu'il faut absolument le projeter sur l'entier de la société. Moi il y a des choses que j'aime pas, il y a des choses qui m'énervent, j'ai pas forcément envie qu'elles disparaissent. Après, après tout, je peux aussi, moi, aller ailleurs. Je pense qu'en effet, qu'il y a une espèce de suroffre des festivals, mais ça veut pas dire qu'il y a une qu'on dépense trop pour la culture. Ça veut pas dire qu'on met trop d'argent. Ça veut dire peut-être qu'on le dépense mal.
Ouais, vous cultivez un certain art du paradoxe, Quentin Mouron. Dans ce studio, nous ont rejoint Rouven Guessa et Michel Eman, et c'est l'un des symboles d'une génération d'artistes dont le temps parle ce matin, Michel.
Vous avez raison de parler de symbole, Thibault, parce que je pense que son nom ne dira quelque chose qu'aux plus âgés d'entre nous. Née en 1937, elle a donc 78 ans. Elle avait été qualifiée de meilleure actrice de notre temps par des écrivains comme Arthur Miller ou encore le dramaturge Tennessee Williams. Elle, c'est Vanessa Redgrave, Vanessa la Rouge, comme certains l'ont parfois surnommée. Oscar du meilleur second rôle féminin dans Julia de Zinnemann. L'actrice a aussi tourné dans Blue Up d'Antonioni, Retour à Howard Sound de James Ivory. Elle a aussi arpenté de nombreuses pièces de théâtre. Vanessa Redgrave, c'est vraiment l'une des grandes figures des artistes de gauche engagés dans des causes humanitaires ou politiques durant de nombreuses années. Un mot encore pour vous dire que la rencontre avec le journaliste semble s'être mal passée.
Et du côté de la Basler Zeitung, Rouven, la Basler Zeitung décortique ce qui touche et dérange les Suisses.
Oui, avec une longue interview d'un chercheur d'avenir, un scientifique, hein, il faut quand même le dire, le Balois Andreas Walker. Il estime, et c'est le gros titre de l'article, que nous vivons dans une époque post-Biedermeier, référence à cette période historique qui s'étend du congrès de Vienne en 1815 aux révolutions de 1848. Un temps qui évoque une certaine défiance vis-à-vis de l'État, un repli des artistes vers la sphère privée, une fuite dans l'intime. Autrement dit, aujourd'hui, en 2015, les Suisses veulent avant tout se sentir bien chez eux, entre leurs quatre murs, et ils s'intéressent moins à la carrière ou à la richesse. Changement de paradigme, donc, dans les valeurs chères aux Suisses, mais tendance isolationniste. D'après cette étude baloise, la Suisse est moins altruiste, moins tournée vers l'autre, mais pas forcément plus égoïste. Le Suisse cherche d'abord à prendre son propre destin en main, au niveau très individuel.
Alors Quentin Mouron, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description de l'esprit suisse avec un repli des artistes vers la sphère privée, une fuite dans l'intime ?
Non, je crois pas, mais je trouve étonnant le paradoxe où on dit qu'à la fois ils sont moins altruistes, mais en même temps ils sont pas plus égoïstes parce qu'ils s'intéressent à eux. Enfin, j'ai peut-être mal compris l'argumentaire de la Basler Zeitung, mais enfin ça me semble étonnant, mais ça m'étonne pas. Disons, on voit ça, on peut le voir simplement en lisant les journaux ou dans la rue. C'est vrai qu'on je crois pas qu'on a atteint un climax de solidarité ces derniers temps.
Et on se tourne vers les biographies, les autofictions, c'est aussi ça.
Oui, ça se fait pas mal, oui, c'est vrai. Je sais pas si c'est en train de diminuer, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, évidemment, on a toujours envie d'écrire sur nous-mêmes, mais je crois qu'il y a des manières plus intelligentes de le faire que de parler seulement de son petit nombril.
Alors si on revient à la politique culturelle, on voit qu'il y a eu 7 écrivains récompensés hein, dans ces fameux prix de la littérature suisse, des romans des alémaniques, des romanches des tessinois, est-ce que c'est pas un peu institutionnel, à votre avis ?
Bon, forcément, je sais pas si on a fait la méthode des quotas, je sais pas comment on procède. C'est un peu institutionnel, mais ça enlève rien d'ailleurs à la... Pardon ?
Chacun son tour et ce sera vous après, peut-être ?
Oh, moi je pense que je vais encore attendre longtemps, mais c'est mon instinct qui me le dit, mais non, je pense que c'est bon, ça enlève pas la qualité des œuvres, hein, mais ça n'y rajoute rien non plus. Donc je pense que c'est bien qu'il s'est pris, c'est bien pour les artistes, je suis très content pour les auteurs, je les connais pas personnellement, sinon je leur aurais demandé de me payer un verre, mais sinon ça aurait été peut-être le seul aspect positif pour moi.
Mais parlons de moyens, justement, 7 prix suisses de littérature, 7 fois 25 000 francs pour soutenir la création littéraire. Alors d'un côté, c'est beaucoup d'argent, puis c'est aussi peu pour survivre, pour des artistes qui mettent parfois des années avant d'atteindre leur maturité artistique. Est-ce que c'est vraiment utile, cette espèce de compromis, 25 000 francs, dans une vie d'artiste ?
Oui, mais ça dépend à qui on les donne, forcément. Si on est un professeur dodu d'université, qu'on écrit ses mémoires, bah forcément c'est 25 000 francs, ça fait quoi ? Ça fait 2 salaires, enfin même pas, donc c'est pas très utile. Bah ça permet de mettre un peu de beurre sur les épinards et puis de partir un peu plus loin en vacances. Pour quelqu'un qui tire un peu le diable par la queue, là ça peut être très utile. Moi je connais aussi beaucoup d'auteurs qui eux ont des vrais problèmes financiers. Qui sont pas tous des hauts fonctionnaires et qui, en effet, ont besoin de ces 25 000 francs. Alors, je connais pas bien les nominés, mais c'est possible qu'ils soient aussi dans ce cas-là. Et donc, à ce titre-là, je suis très content pour eux.
Antoinette Richner, dans les informations, disait « Ce prix, c'est surtout une reconnaissance, un repère, un signe aussi de la réussite, qu'on est dans le juste. Est-ce que ça, on court après quand on est écrivain comme vous ?»
Bon, le terme de juste me paraît un peu peut-être un peu surévalué, disons non, moi je crois pas que c'est vraiment enfin l'Office fédéral de la culture qui va m'apprendre que mes livres sont bons. Les lecteurs le sont en charge et j'en suis très content.
Alors la communication, l'information aussi passe énormément aujourd'hui par les réseaux sociaux, les journaux en ligne. Vous ne manquez pas dans vos chroniques d'égratigner les internautes, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui motive là votre indignation? Vous n'êtes pas de notre temps, vous êtes anti-SMS, anti-WhatsApp, anti-Facebook?
Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, je me réjouis de rallumer mon téléphone pour voir qui m'a écrit. Et j'ai été, je crois, l'un des premiers en Suisse romande comme écrivain à faire la promotion par les réseaux sociaux. Et donc, je suis pas du tout anti-réseaux sociaux. Je suis anti... certains usages me paraissent délirants.
Lesquels ?
Je pense à l'usage de... Prenons un exemple simple. Je pense à certains journalistes qui, par déformation professionnelle, le lendemain, enfin même le soir même des attentats, on avait l'impression que il fallait faire le plus de cartons possible. Il fallait absolument que toutes les 5 minutes, on amène une info par pure déformation professionnelle, parce que finalement, ils en savaient pas plus que leurs collègues qui étaient eux sur place. Mais il fallait, comme on était même parfois au sport, ou parfois à la culture, ou en économie, mais il fallait, parce qu'on avait ce sacerdoce-là, propager un maximum d'informations pour se justifier. Et ça, évidemment, c'était une déformation professionnelle de journaliste. Je prends un exemple simple, mais c'est aussi celle de beaucoup de lecteurs, de beaucoup de participants, d'internautes. Et je crois que là, il suffit de se rendre sur la section commentaires d'un journal en ligne. C'est pas forcément les endroits les plus reluisants de l'esprit humain. C'est pas forcément les meilleures productions. On voit bien, c'est toujours un peu la même chose. Hein, les pauvres qui doivent s'occuper de trier ces commentaires entre un mélange de racisme crasse, d'ultra-violence, de propos à l'emporte-pièce. Et on a même vu récemment, après ces émeutes, c'est pas vraiment des émeutes, mais enfin ces petits casse qu'il y a eu à Genève, ces types du conseil communal, je pense là au gros du MCG, là comment ça s'appelle, Médéros, je crois qu'il commençait à menacer des types, allez on va se retrouver à la buvette, et puis c'est complètement délirant quand on voit ça d'élu. Alors qu'un type qui soit au fond de je sais pas, de son appartement commence à être un peu fâché, je comprends, mais que les élus, que les journalistes donnent dans cette crasse, je trouve ça étonnant.
En somme, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment le lieu de la réflexion parce que ça va trop vite, c'est la dimension temporelle qui est la cause de ce problème.
Ça peut être le lieu de la réflexion. Dans les faits, c'est plutôt le lieu de l'obscénité, de la pornographie, au sens pas très excitant du terme, au sens plutôt dégueulasse, au sens de se montrer, c'est pas grave, si vous voulez. Le problème, c'est ce qu'on montre de nous. Et je pense que là, il y a certains caps qui ont été franchis particulièrement par les politiciens genevois, mais c'est pas nouveau, par d'autres politiciens également. Et c'est étonnant, disons, c'est étonnant parce que je pense que si j'étais aujourd'hui citoyen de Genève, j'aurais un peu honte quand même de ce conseil municipal, et c'est vrai que j'aurais pas tellement envie de lui reconnaître un fondement d'autorité.
Moi, les artistes parfois aussi s'expriment peut-être un peu trop vite, ça arrive, sur les réseaux sociaux, vous par exemple.
Bien sûr, ça m'est arrivé certainement, mais oui, bien sûr, mais les artistes ont un peu plus le droit de s'exprimer quand même, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus tout un staff pour nous aider à la com, hein, donc on n'a pas non plus un parti, on n'a pas, donc forcément, peut-être qu'on fait moins d'erreurs, donc il faut quand même s'interroger sur les fondements.
Peut-être vous prenez un peu plus de temps. Michel Eman, Rovengessa, les autres temps forts de la presse.
Avec les 90 ans de la Little Black Dress, la petite robe noire lancée en 1926 par Chanel, une pleine page lui est consacrée dans la Basler Zeitung. Le journal détaille cette révolution dans le domaine de la mode, l'histoire d'une force d'attraction restée intacte. C'est comme un poème qui exprime l'essence de chacun par les mots les plus simples.
24 heures de son côté nous apprend que les rémunérations de certains syndics, comme à Renan ou Épalinges, vont être revues à la hausse. Leur travail a augmenté, il s'est compliqué, la charge est de plus en plus lourde. L'on constate donc une tendance à mieux prendre en compte cette évolution. Et puis pas de surprise pour l'élection complémentaire au gouvernement bernois le 28 février prochain, note le quotidien jurassien. À l'échéance du délai pour déposer sa candidature, ils seront 6 à se disputer les sièges des socialistes Pernoud et Rickenbacher. Parmi eux, 3 romans, Roberto Bernasconi, Pierre-Alain Schneck et Patrick Steiger.
Et puis en politique, toujours le double jeu de Roger Köppel qui agace dans le Tagesanzeiger et le Bund, rédacteur en chef de la Weltwoche et nouveau conseiller national. Roger Köppel porte une double casquette, donc, qui énerve plus d'un membre de son parti, l'UDC, surtout lorsque Roger Köppel commence à critiquer ses collègues de parti dans son journal ou que les notes internes de la fraction UDC se retrouvent publiées dans l'hebdomadaire.
Quentin Mouron, on parlait tout à l'heure de l'intellectuel dans la vie de la cité. Là, Roger Köppel, décrit comme un intellectuel qui s'engage en politique. Vous en pensez quoi de ce personnage ?
Bon, c'est assez marrant. En tout cas, il doit se faire un pognon dingue parce qu'il arrive comme ça. Il est à la fois à l'UDC, il peut utiliser l'UDC pour capitaliser, augmenter la.
Il y a un peu d'envie là, dans ce que vous dites, non ?
Un petit peu d'envie, non, mais je crois que je n'ai pas forcément envie d'adhérer à l'UDC maintenant. Enfin, je garde ça pour avant la maison de retraite.
Mais sur le pognon, c'est ce que vous décriviez tout à l'heure.
Oui, mais c'était plutôt pour rire. Mais non, je crois que c'est un espèce de, c'est tellement gros, disons, cette espèce de double casquette qu'on se met. On peut avoir double casquette. Je veux dire, si le type fait de la pétanque de manière professionnelle, c'est pas si grave. Mais être à la fois journaliste et en même temps utiliser ça, utiliser à la fois le fait d'adhérer à un parti et le fait d'être journaliste pour essayer de, je sais pas d'ailleurs ce qu'il essaye de faire. Enfin, ça me paraît étonnant. Mais bon, c'est peut-être un bon frein pour l'UDC après tout.
Voilà, quant à Mourant, vous n'êtes pas très optimiste. On peut dire ce matin que vous avez tiré à peu près sur tout le monde. Vous avez dit je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de raisons d'espérer, je vous cite, mais il reste des livres à écrire et cela me console. Alors le prochain livre, il parle de quoi? Ou il tire sur qui?
Je tire sur personne dans le prochain livre. Enfin, ça ressemble un peu à Polar, donc il y a forcément quelques coups de feu, mais c'est pas particulièrement visé. Je prépare un livre qui sera... Je vais mettre quelques années sans doute, là ce sera un peu plus mitraillette, mais le prochain non, je crois pas que ce soit un livre. Dans mes romans je tire pas vraiment, à part le troisième où là c'était un peu plus centré sur le milieu culturel suisse, mais sinon non, je crois pas que je sois un sniper romanesque.
Michel Houellebecq disait « Je rêve d'écrire un gros livre », référence à ces livres peut-être du 19e siècle, c'est aussi votre rêve ?
Et même du 20e, et même encore du 21e chez les Américains. Donc j'aime bien lire les gros livres, et c'est vrai que je sais pas si c'est mon rêve pour l'instant, mais en tout cas, j'ai toujours dans l'idée de faire quelque chose de plus gros.
Et changer le monde?
Non, non, je crois pas.
Bon, très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.
Merci
Quentin Mourant d'être venu quelques instants dans cette émission. Je rappelle que vous avez 26 ans, écrivain né à Lausanne, et que votre dernier livre, ça s'appelle « Trois gouttes de sang et un nuage de coke » et c'est paru l'été dernier. Merci beaucoup.
Merci à vous.